Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Verseau qui commence le 20 janvier, de la nouvelle lune en Verseau le 21 et de la belle grosse pleine lune en Lion le 16 février. On va parler aussi de la célébration païenne d'Imbolc qui arrive tranquillement mais sûrement le 1er février. Et dans la portion « Mel, raconte-nous une histoire », en fait, je vais vous parler des grandes lignes de 2023 côté astro. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour nous collectivement? Alors, commençons par la saison du Verseau. Une saison du Verseau qui commence cette année le 20 janvier jusqu'au 18 février 2023. C'est important de comprendre que quand on regarde les dates pour un signe, ça peut fluctuer d'une année à l'autre. Des fois, on va voir quelque part écrit le 19, on va voir le 20, tout ça, ou le 20 ou le 21. Ça dépend toujours du mouvement de la Terre autour du Soleil. Oui, ça lui prend 365 jours, la planète, faire le tour du Soleil, mais à quelques minutes, secondes près, tout ça qui s'accumule. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des années bissextiles où est-ce qu'on réajuste justement l'horloge planétaire, si on peut dire. Donc, c'est important de savoir ça. Alors, c'est pas que votre astrologue n'est pas bon ou que votre livre n'est pas bon, mais que c'est normal qu'il y ait des ajustements d'année en année. Des fois, là, ça va jouer tout le temps un peu d'une journée. Des fois, oui, des fois, non, ça dépend. Mais cette année, la saison du Verseau, du 20 janvier au 18 février, on revient dans une modalité fixe dans l'élément de l'air. Alors, toujours bon de se rappeler qui sont nos signes fixes, taureau, lion, scorpion, verseau. C'est ceux qui sont au cœur des saisons, qui ancrent les saisons. Alors, on est vraiment dans un principe stabilisateur. C'est une énergie qui est plus lente parce qu'elle est fixe, elle doit prendre son temps, mais c'est très productif, c'est persistant, c'est très focusé sur le but à atteindre, c'est presque obsédé. C'est eux qui assurent qu'un projet se rend du début à la fin. Souvent, les signes fixes, c'est comme A, B, C, D. Il faut voir l'ensemble, il faut y aller une étape à la fois. Il faut faire les choses comme il faut. Fait qu'il y a vraiment comme cet effet-là avec les signes fixes. Ce sont des signes qui sont très vigoureux, solides. Ils représentent la stabilité. Ils aiment les choses qui durent dans le temps. Ce sont des bâtisseurs qui cherchent à solidifier, à consolider. Pour cette raison-là, ils sont souvent entêtés, obstinés, ont de la difficulté à accepter que les choses changent ou à eux-mêmes s'adapter. On va retrouver beaucoup de troubles d'adaptation chez les signes fixes, souvent. Aussi, un trait de personnalité des signes fixes, s'ils vous donnent leur parole, vous pouvez leur faire confiance. Ce qui doit être fait, va être fait. Parce que leur honneur est en jeu, là, c'est du sérieux, tu sais. Mais si vous leur donnez votre parole, si vous faites des promesses, vous êtes mieux d'y tenir. Ce ne sont pas des signes qui ont le pardon facile ou beaucoup de patience avec l'incompétence. Alors, à prendre en considération. C'est des signes qui aiment être en contrôle de la situation parce que ça les rassure. Ça le dit, hein, c'est des signes fixes, trop de fixité, trop de rigidité. Alors, ils ont tout à gagner à devenir flexibles. Et souvent, c'est un des plus grands challenges dans leur vie, mais c'est là qu'ils vont grandir le plus. C'est leur plus grande leçon de vie, bien souvent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est des personnalités intense. Évidemment, chacun le fait avec la couleur de son élément. Alors, si on pense au taureau, signe de terre gouverné par Vénus, pas pressé, prudent, travaillant, on est dans le monde des cinq sens, on est sensuel, bon vivant, on aime son confort chez le taureau. On est attaché à une certaine façon de faire les choses. On est attaché au bon vieux temps. Oh, le bon vieux temps! Mais tout ça mis ensemble fait que justement, de tous les signes fixes, le taureau, c'est celui qu'il faut moins pousser parce que il a vraiment sa vitesse, tu sais. Alors, respectez-la, sa vitesse. Sinon, gare à vos fesses. C'est des têtes dures, les taureaux. Ils peuvent même vous faire le traitement du silence. Alors, s'ils font ça, laissez-les faire, vous gagnerez jamais. Ils reviennent tout le temps, de toute façon. Parce que justement, oh, le bon vieux temps, tu sais, ils reviennent toujours à leurs racines, puis qu'est-ce qui était confortable, puis tout ça, alors on les laisse revenir. Le lion, signe de feu, gouverné par le soleil, le plus lumineux des quatre, hein, on est vraiment, ou même de tous, hein, c'est le soleil. Alors, créatif, affectueux, généreux, capable de leadership, on y va pour la gloire, on est plus grand que nature. Rise and shine, bébé. Mais, as-tu besoin d'attention, un peu de validation, un petit peu dramatique par moment? On a le bon roi ou la bonne reine, ou on tombe du côté dictateur et là, ben, c'est pas mal moins le fun. Alors, on essaye d'éviter ça, mes amis des lions. Mais de façon générale, c'est toujours ça, hein, le côté positif et négatif de chacun des signes. Ça dépend tellement de plein d'autres choses aussi dans votre charte. Si on regarde un autre signe fixe, le scorpion, alors signe d'eau gouverné par Mars. Alors, beaucoup de force, de volonté, d'intensité, de puissance. La passion est si forte souvent chez scorpion qu'elle le brûle, elle brûle son esprit puis il ne voit plus rien d'autre. Alors ça, c'est à faire attention. Il est attiré par les mystères de la vie, il est très intuitif, on est dans le monde d'Harry Potter, toujours un bon détecteur de bullshit, mais aussi très suspicieux, possessif, tourmenté, c'est pas toujours reposant tout ça, là. Mais toujours avec une grande capacité d'accomplissement à condition qu'il tombe pas dans le côté sombre de la force. Et le signe qui nous préoccupe aujourd'hui, le Verseau, signe d'air, gouverné à la fois par Saturne traditionnellement, mais aussi par Uranus, sa planète moderne. Ces deux planètes en font un être à la fois très structuré et excentrique, porté à penser en dehors de la boîte. Quand on pense au Verseau, on pense souvent à ça. Alors, on a Saturne, le petit côté sérieux, et Uranus, le petit côté givré. Pour ces raisons-là, ça fait aussi de lui un peu le gardien du passé et du futur, des traditions et de l'innovation. C'est un révolutionnaire aux grandes idées. C'est possiblement le moins fixe des quatre, ou disons le moins solide des quatre. On s'éloigne de la matière ici. On est pas mal plus dans l'éther que dans la terre. On est dans un signe d'air, bien sûr, mais c'est autre chose qu'on regardera ensemble tout à l'heure. On va rester avec Uranus, puisque le mois dernier, avec le Capricorne, on a regardé Saturne. Si jamais vous l'avez manqué, vous pouvez retourner voir dans les épisodes. C'était la saison du Capricorne où est-ce qu'on parlait de Saturne. Donc, Uranus, on va regarder du côté de la mythologie. La dernière fois, on a dit que Saturne était le fils d'Uranus. Et ça file toujours contre-intuitif quand on parle de ça, parce que on entend toujours Saturne, le père du temps, tu sais, c'est associé au père, associé à l'autorité, tout ça. Alors, on s'imagine toujours que c'est le père ultime, mais toutes les pères ont un père, quelque part. Uranus est associé dans la mythologie à Uranos, qui lui-même représente le ciel, la nuit, le chaos, et que c'est Gaïa, la terre, qui lui donne la forme. De l'union d'Uranos et Gaïa naît les titans, les cyclopes, des créatures puissantes et primaires qui représentent les premiers développements de l'univers. C'est important de comprendre à quoi servait la mythologie dans le temps. La mythologie servait à raconter des histoires pour expliquer la psychologie humaine, pour expliquer l'univers, pour expliquer toutes ces grandes choses-là. Alors, on utilisait tout un monde qui sont devenus des archétypes, hein, et toutes ces histoires-là qu'on raconte servent à expliquer la formation de la vie, la psychologie, l'humain et tout ça. Alors, c'est pour ça que ça nous parle encore aujourd'hui, puis que c'est tellement important. Mais bref, je m'égare. Alors, Uranus et Gaïa mettent au monde des créatures puissantes et un peu épeurantes. Et d'ailleurs, justement, Uranus craint ses enfants terribles, qu'il renvoie au cœur de Gaïa pour qu'il soit enfermé le plus loin possible de lui, comme enfermé dans la terre. Alors, sa progéniture, il ne voulait rien savoir. Alors, dans les mythes, on voit souvent ça, justement, de père en fils, c'est très dramatique, et le fils tue le père mange les enfants, toutes des histoires comme ça. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut imager, justement, c'est des étapes d'évolution dans toute cette histoire-là de cosmologie qu'on essaie de raconter, dans le fond. Alors, on revient. Donc, les enfants d'Uranus et Gaïa qui sont comme enfermés dans la terre, dans le ventre de Gaïa, si on peut dire. En réponse, Gaïa a recours à une ruse pour venger sa progéniture et elle-même. On la comprend. Elle extrait donc un diamant de son sein et fabrique une faux pour Cronos ou Saturne, le plus jeune de ses fils. Alors, on a vu ça aussi le mois passé, Saturne avec Sappho. Et Saturne mettra son père en embuscade et imaginez-vous donc qu'il va lui couper les testicules. Mais oui, on parle de testicules ici, là. C'est super le fun. Mais ce que ça symbolise, dans le fond, c'est que Saturne tranche le lien qui fixait la Terre et le ciel. Donc, Gaïa, la Terre, ciel, Uranus. On parle du début de la formation des planètes. Dans le fond, c'est ce que ça représente et le début du temps, si on peut dire. Donc, Saturne qui coupe justement le testicule de son père, la création, tout ça. Et là, il y a une séparation vraiment ciel-terre et les planètes commencent. Donc, le sang jaillit, évidemment, de pauvre Uranus. Et tout ça s'écoule sur la Terre comme de la pluie et donne naissance à de nouvelles créatures plus raffinées, si on peut dire. Les testicules d'Uranus, elles aussi, sont jetées à la mer. Et voyez-vous qu'une formidable créature naîtra de ses restes. Et ce sera une jeune fille que les dieux appelleront Vénus. Alors, aussitôt que Vénus apparaît, viendront lui tenir compagnie Eros, qui représente le désir de s'unir aux vivants, et Hyméros, qui veut dire attirance. Tout ça pour imaginer que même de la destruction ou d'événements terribles peut naître la beauté. Petit rappel. Alors, c'est à ce moment que le règne d'Uranos finit et que celui de Saturne commence, mais lui-même va être supplanté par son fils Jupiter et les Olympiens, comme on a vu dans les épisodes précédents. L'affaire, par contre, c'est qu'on ne peut pas seulement associer Uranus à Uranos. Cette association-là fonctionne parce que Uranos est le dieu du ciel, des étoiles, et que la planète Uranus est associée à tout ce qui est espace, recherche spatiale, astronomie, astrologie, là, tout ce qui touche au ciel, même les avions, hein, tout ça, qu'est-ce qui touche les airs, dans le fond. Mais dans ce mythe-là que je viens de vous raconter, il n'est pas assez rebelle ou révolutionnaire. Il y a Rick Tarnas qui a écrit un livre super important en astrologie qui s'appelle « Cosmos and Psyche », qui est comme une bible moderne de l'astrologie, là. Et lui associe Uranus plutôt au mythe de Prométhéeus. Et qui était Prométhéeus? C'était un titan qui est venu aider Jupiter dans sa rébellion contre son père Saturne et qui par la suite vola le feu des dieux pour l'amener aux humains. Alors, le feu qui symbolise pour les humains à la fois le progrès technique et la connaissance. Alors là, on commence à s'approcher pas mal plus d'une vision globale d'Uranus. Donc, si on combine le mythe d'Uranus, ciel, étoile, chaos primaire de l'univers, et Prométhéeus, le révolutionnaire qui amène une lumière nouvelle aux humains, là, on a l'image complète d'Uranus. Alors, c'est bien important de garder ces réflexions-là en tête et de voir comment les archétypes sont toujours aussi en évolution. Donc, quand on parle d'Uranus, on parle de changement, de rébellion, de liberté, de révolution, l'éclatement des structures, les changements soudains, l'innovation, les inventions technologiques. C'est la brillance intellectuelle, l'originalité et l'émancipation. Ça, c'est vraiment un mot très important associé à Uranus. Puis, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que la découverte d'Uranus en 1781 correspond avec la Révolution française, la Révolution américaine, le début du féminisme, l'âge des Lumières, vraiment, où est-ce qu'on est sorti de l'obscurantisme de la religion pour vraiment comme dissocier justement l'État du religieux ou enlever la mainmise de la religion sur l'État et que vraiment les gens puissent devenir des libres penseurs. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est revenu à un État où est-ce qu'on a reconnecté avec notre capacité de penser pour nous-mêmes. Alors, viva Uranus! Dépendamment de ses transits, il est souvent associé à des moments forts d'émancipation pour l'humanité et pour la pensée. Aussi. Uranus passe 7 ans dans un signe et ça lui prend environ 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Si tout va bien, vous vivrez un cycle complet d'Uranus, hein, on se le souhaite et je vous le souhaite, qui se développera en 4 étapes. Alors, toujours associé aux conjonctions, carrés et oppositions qui sont vraiment les moments toujours importants dans un cycle. Hein. C'est comme nouvelle lune, pleine lune, quart de lune, dernier quart de lune, etc. C'est un cycle qui est associé à des périodes de prise de conscience, d'émancipation, de crise aussi parfois. Le premier carré est à 21 ans. Alors, souvent le moment où est-ce qu'on s'éloigne pas mal plus de nos parents. Parfois même, on quitte la maison pour aller étudier. On va aller se faire notre propre idée. on va aller voir qu'est-ce que d'autres personnes pensent. On rentre dans la vie, on rentre dans la société, on devient notre propre personne. Ensuite, l'opposition à 42 ans, donc l'opposition d'Uranus, connue aussi sous le nom de midlife crisis. Alors, un moment très important de la vie. C'est comme une deuxième adolescence, en fait. C'est le feeling que je ne suis pas encore vieux, mais je ne suis plus si jeune non plus. Alors là, il y a comme un ajustement à faire. Ensuite, on a le dernier carré autour de 65 ans. Souvent, c'est le moment, justement, les gens commencent à penser à leur retraite ou à faire un changement ou commencer à faire des choses vraiment pour eux s'ils ne l'ont pas fait avant. Et ça se complète à l'âge de 84 ans. Et peut-être que certaines personnes, s'ils se rendent à 100 quelqu'un, ils vont avoir un autre carré. Mais souvent, c'est ça. Là, c'est associé à des cycles comme ça, d'émancipation, d'ajustement là, vraiment important. Alors, où est Uranus dans votre ciel? Peu importe où il veut réveiller cette partie-là de votre charte, ça c'est sûr. Faut voir les planètes qui l'entourent, faut voir à qui il fait des aspects. Alors, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est vraiment une planète justement qui vient brasser le statu quo. Alors, c'est super important. Si on regarde le Verseau lui-même, le Verseau est associé à la maison 11 des amitiés, groupes et associations. Il favorise l'individu au cœur de la communauté et la communauté au cœur de l'individu. Ça, c'est vraiment l'essence de l'esprit du Verseau. Pour cette raison-là, il est souvent considéré comme socialement progressif, humanitaire. Il représente un peu la conscience globale du zodiaque. Ça ne veut pas dire nécessairement que tous les Verseaux sont humanitaires ou vont se battre pour une cause ou tout ça, tu sais. Certains Verseaux même se sentent un peu aliénés quand ils regardent la société et deviennent de grands anticonformistes, mais d'une façon ou d'une autre, ils vont faire leur chemin en voyant le big picture, tu sais. Ça fait vraiment partie d'eux, là, et de comment ils réagissent par rapport à ça. Ça reste quand même un être très social. Il pourra passer facilement d'un groupe à l'autre sans trop de difficultés, du moment qu'il est confortable avec sa propre individualité. Ça, c'est vraiment son combat personnel. Souvent dans sa jeunesse ou à certains moments de sa vie, il peut se sentir vraiment comme incompris. Où est-ce que je fit? Alors, ça va beaucoup dépendre de l'environnement dans lequel il a grandi. Est-ce qu'on l'a encouragé à être lui-même et il est confortable avec ça? Là, ça va être plus facile. Ou est-ce que, justement, on le forçait à rentrer dans une boîte puis la boîte ne faisait pas pour lui et là, oh, ça va être tout un combat de sortir de ça. Alors, ça dépend beaucoup, justement, de comment il a évolué, si on peut dire. Son symbole aussi, quand on regarde, il est trompe-l'œil. On voit deux petites lignes qui ressemblent à des vagues qui donnent à penser qu'il verse de l'eau. C'est pas de l'eau là qu'il verse. On pense que c'est de l'eau, mais en fait, il déverse des ondes, probablement des ondes cosmiques, électromagnétiques, quantiques, qui sait? Alors, on est pas mal plus proche d'Uranus et du Verseau quand on parle d'électricité, de foudre qui frappe de façon imprévisible, quand on s'y attend le moins et tout ça. Alors ça, c'est beaucoup plus justement le côté Uranus du Verseau. Le Verseau, c'est aussi celui qui, après avoir observé l'état des choses, peut se permettre de penser en dehors de la boîte, comme on disait tout à l'heure, d'entrevoir le big picture, de se reculer un peu. C'est le principe de changement de paradigme. Il y a vraiment comme une compréhension des systèmes en place. Il est curieux de comprendre comment ça marche puis comment je peux améliorer l'affaire. C'est plus fort que lui. Le Verseau, il cherche à optimiser son environnement, à changer les choses. On va penser à des mots comme concept, stratégie, singularité, synthèse, futuristique. Parfois un peu geek, parfois un peu punk, mais toujours un peu anticonformiste ou de champ gauche. C'est sa façon d'être. Ou s'il est straight, il va être comme tellement fucking straight. C'est comme trop. Puis là, ben là, c'est ça. Ça va être peut-être plus le côté Saturne d'être entêté dans un conservatisme. Là, il peut être très, c'est ça qui est spécial, il peut être très conservateur aussi, puis un peu zélé dans son conservatisme. Fait que peu importe dans où il est, comment il est, il y a comme vraiment ce côté-là, très engagé à être dans qu'est-ce qu'il est. Alors, ça fait partie de lui. C'est souvent un ardent défenseur de la liberté de la pensée, évidemment, de parole aussi. Mais on va souvent entendre ça, le Verseau, c'est pas nécessairement le signe qui laisse paraître le plus ses émotions. Mais je vous garantis que vous allez toujours savoir qu'est-ce qu'il pense. Il y a aucun problème à dire qu'est-ce qu'il pense. Mais qu'est-ce qu'il ressent? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est important de lui laisser son espace. S'il en a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans sa tête, de faire du sens de ce qu'il vit. Si vous trouvez qu'il n'est pas démonstratif, ne le prenez pas personnel. C'est pas parce qu'il care pas ou qu'il se soucie pas du bien-être. Au contraire. Mais c'est ça, c'est un être un petit peu plus intellectuel, un peu plus rationnel qu'émotionnel, ou plutôt ses émotions vont être filtrées par le côté intellectuel et tout ça. C'est de connecter par la tête pour après l'amener dans les émotions un peu plus, tu sais, c'est vraiment de discuter. Y a tout cet effet-là avec le Verseau. D'une façon ou d'une autre, son esprit non conventionnel, sa logique implacable et son univers éclaté trouvera toujours une façon de vous charmer, ça c'est certain. Alors maintenant, si on regarde des natifs connus du Verseau, la première qui me vient en tête, parce que pour moi, c'est tellement... tu peux pas avoir plus Verseau que ça, c'est Yoko Ono, la femme de John Lennon. On a déjà parlé de John Lennon ici. C'est sûr que les plus jeunes, vous connaissez sûrement pas sa musique ou son art, mais c'était vraiment pété, là. Essayez d'aller écouter une toune de Yoko Ono, là, c'est dur. Mais c'était tellement avant-gardiste. C'est, Yoko Ono était avant-gardiste avant l'avant-garde, là. Tu sais, il y a comme quelque chose avec elle, c'était vraiment éclaté dans sa tête, c'est vraiment pété, c'est vraiment tout un personnage. D'ailleurs, elle a le soleil à 29 degrés du Verseau, alors le degré critique un peu du zodiaque, le chiffre 29, moi je l'aime beaucoup. Toute l'intensité du signe souvent se retrouve à ce degré-là, autant dans les expériences que dans les choses que la personne va vivre, alors c'est super intéressant. Elle a Vénus et Saturne en Verseau. Alors là, ça, c'est comme pas évident. Il était en conjonction, d'ailleurs, à sa naissance. Elle a un ascendant Balance et une lune en Sagittaire. Ouf, c'est vraiment tout un mélange, ça. On retrouve autant d'énergie fixe, mutable, cardinale. Il y a vraiment une énergie-là qui est un peu insaisissable d'une certaine façon. Un autre bel exemple de Verseau, qui a d'ailleurs lui aussi le soleil à 29 degrés 55, là, vraiment, là, il en manquait pas beaucoup pour qu'il soigne un poisson, mais c'est Dr. Dre. Alors, Dr. Dre, qui est rappeur, producteur, compositeur, même acteur, entrepreneur, homme d'affaires. Il a eu sa propre maison de disques à l'époque. Il a fait partie de NWA, justement, un des premiers groupes gangster rap qui a vraiment brassé la cage énormément à l'époque. Là, on pense à Fuck the Police et des trucs comme ça. Lui aussi, c'est un artiste du hip-hop. Il a mis de l'avant plein d'artistes qui ont connu énormément de succès. Il était le premier à utiliser certaines technologies, puis justement de mixer certaines choses ensemble, et vraiment un génie à sa façon dans son domaine. Il a d'ailleurs Mercure et Vénus aussi en Verseau. Il a son MC, alors son milieu du ciel en Verseau. Donc, c'est vraiment un bel exemple de Verseau aussi, en plus avec l'ascendant Gémeaux. Alors là, il y a beaucoup d'air là-dedans. il y a même sa lune en Balance. Alors, beaucoup, beaucoup d'énergie aérienne et d'idées, d'expansion d'idées, tout ça. Et d'ailleurs, il a aussi Saturne en poisson. On sait que Saturne rentre en poisson cette année. Alors, ça va être certainement son retour, son deuxième retour de Saturne, en fait. Ça veut dire qu'il doit être proche de la 57, 58, 59 dans ces eaux-là. On va retrouver des signatures de Saturne en poisson, justement, dans des gens qui vont avoir vraiment maîtrisé la musique ou les arts. Tout ça se passe pas loin de son milieu du ciel, dans sa maison 9 et 10. Alors, il y a beaucoup d'action dans son ciel, dans ce coin-là. Alors, un bel exemple, lui aussi. Et un de mes préférés, et si ce n'est pas mon Verseau préféré, c'est Bob Marley, vraiment un révolutionnaire à sa façon, avec ses paroles, ses chansons. On n'a pas d'heure pour lui, alors on peut pas se fier sur sa lune ni son ascendant. Mais ça me fait rire parce qu'il a Saturne en cancer et cancer associé tout au féminin, tout ça, et No Woman, No Cry, ses chansons, je trouvais ça cute là, d'une certaine façon. Et un autre qui se trouve avoir beaucoup, beaucoup de Verseau aussi, c'est Harry Styles. Soleil en Verseau, on a Mercure, Vénus, Mars en Verseau, imaginez-vous donc, fait qu'il y a énormément d'expressions personnelles dans ces signes-là. Et je trouve ça intéressant, justement, tu sais, il a quitté le boys band dans lequel il était, je me rappelle pas comment ça s'appelait. Maintenant, il s'amuse beaucoup plus, je trouve. Il a adopté un style vestimentaire différent. Il a l'air à s'en foutre complètement, puis à aimer provoquer un peu avec ça. Alors, on voit tout le côté du Verseau. Et il est ascendant, on pense qu'il est ascendant balance. Alors, petite personne coquette, c'est clair. Mais lui aussi, là, on n'est pas sûr de son heure de naissance. Alors, on ne va pas trop se fier là-dessus. Alors, voilà pour nos Verseaux connus. Maintenant, si on regarde les transits importants de la saison du Verseau, bien, première des choses, on va être déjà rendu dans la saison du Verseau, mais quand même, Mars, la planète de l'action, de la volonté, de notre drive, passe finalement direct en Gémeaux après avoir passé plusieurs mois là. Alors ça fait du bien. On a aussi Mercure qui est passé direct le 18 janvier. Alors, ça va prendre du temps quand même avant que les deux, justement, sortent de leur zone de rétrograde, mais déjà là, on sent qu'il y a une énergie qui revient, qui remonte, qui avance, tu sais, pour ensuite arriver au Soleil qui entre en Verseau le 20, comme on disait. Tout de suite, le lendemain, on va avoir une nouvelle lune, le 21, à 1,33 du Verseau. Alors, c'est dans les premiers degrés, encore une fois. On a eu plusieurs nouvelles lunes dans les premiers degrés. Je pense qu'on va en avoir d'autres. On a aussi un peu le même phénomène avec les pleines lunes. On va avoir plusieurs pleines lunes, je pense 5 ou 6, à 16 degrés environ, ou dans ce coin-là, dans les prochains mois. On en a quand même quelques-unes de passées, mais on va en avoir d'autres à peu près dans ces degrés-là. Alors, c'est vraiment comme particulier, c'est intéressant de voir ça aller. Beaucoup, justement, de renouveau dans l'air, là, après la grande période qu'on a passée. C'est intéressant de voir que cette pleine lune-là va avoir lieu sur ce degré-là, où est-ce que Pluton va faire du surplace pour les 3 prochaines années. Alors, c'est sûr qu'on ne se rappellera pas du 21 janvier 2023 dans 3 ans, là. Sauf que, encore là, c'est un peu un marqueur important. Si vous faites du journaling, là, soulignez cette journée-là, cette nouvelle lune-là. Moi, je vous dirais que cette nouvelle lune-là, c'est peut-être plus une nouvelle lune d'observation, tu sais, observer qu'est-ce qui se passe. Parce que elle n'est pas tellement loin de Pluton. Saturne va être en conjonction avec Vénus aussi, qui va être en Verseau. Il va y avoir quand même des aspects intéressants à Mars et à Jupiter. On a envie de s'exprimer un peu plus, là, surtout que Mars s'en va direct et tout. Alors, il y a comme quelque chose beaucoup en lien avec l'individualité, je trouve, avec cette nouvelle lune-là. Peut-être avoir des réflexions autour de tout ça. Et c'est un moment important, justement, pour mettre la main à la pâte, parce qu'il y a vraiment un mouvement vers l'avant dans le ciel. Alors, c'est le temps là, de forcer puis de travailler peut-être un peu plus fort, puis on se reposera peut-être un peu plus loin, mais il y a vraiment comme quelque chose dans le ciel qui nous pousse à dire OK, tu sais, surtout avec Jupiter qui est maintenant revenu en bélier, allons-y, on fonce. Si vous voulez faire des choses pour vous, comme commencer à mettre ça en branle, ça va être super important. Le lendemain, le 22, Uranus passe direct en taureau. Il va être à 14,57 à ce moment-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toutes les planètes vont être directes jusqu'au mois de mai, si je ne m'abuse. Alors, comme je vous disais, là, c'est une période vraiment importante dans laquelle on est. C'est une énergie de nouveau départ super important, mais beaucoup focussée sur « mais qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Qu'est-ce que je veux faire de nouveau? Qu'est-ce que... ou pas? » Tu sais, peu importe. J'utilise le mot « faire », mais ça peut très bien être le mot « être ». Qui est-ce que je veux être? Est-ce que dans la dernière année, j'ai eu des révélations sur moi-même, est-ce que je veux vivre plus en accord avec moi-même? Alors, c'est toutes des choses comme ça qui vont être importantes et c'est un très, très bon momentum vraiment, là, plus on avance. Là, toute la période de cet hiver, ce printemps, là, ça va être vraiment une belle période pour pousser les choses vers l'avant. Ensuite, le 26 janvier, on a Vénus qui rentre dans son signe de l'exaltation, le poisson. Alors, salut les lovers! C'est toujours un beau moment de l'année où est-ce que on rêve et on romantise et tout ça, là. Tu sais, c'est très bon pour les arts, c'est très bon pour les pratiques spirituelles aussi, mais tu sais, il y a quelque chose de cœur un peu léger avec tout ça. Alors, ça va être intéressant D'ailleurs, elle va s'éloigner de Saturne, elle va être vraiment contente de ça. C'est sûr que Saturne et Vénus, il y a comme un effet structurant. Des fois, ça peut être super bon ou récolter le fruit de nos efforts, mais c'est comme si je te félicite, mais qu'en même temps, je te dis que tu n'en as pas fait assez. Fait que des fois, ça file comme ça. Alors là, Vénus qui va rentrer en poisson, ça va être un petit peu plus léger et fleur bleue, si on peut dire, et yummy, là. T'sais, c'est vraiment agréable. Ensuite, si on rentre dans le mois de février, on a une pleine lune le 5 février à 16 degrés 41 minutes du Lion à 13h28 heure de l'Est. Alors ça, c'est toute qu'une pleine lune sur l'axe des signes fixes, justement, l'axe où est-ce qu'on a les éclipses depuis un certain temps. D'ailleurs, je crois qu'au mois de mai dernier, on avait eu, ou peut-être même novembre, on avait eu des éclipses là, à peu près autour de ces degrés-là. Alors, il pourrait y avoir des thèmes soit de cet automne ou du printemps passé qui reviennent. Zone peut-être plus intense, mais c'est en Lion. Alors, il y a vraiment comme quelque chose de « Ah, dérange-moi pas, tanne-moi pas, je veux faire qu'est-ce que je veux faire. Je veux avoir du fun. » Mais Saturne ne sera pas tellement loin, justement. Alors, on dirait que c'est un peu... on vous a parlé beaucoup dans les dernières années du carré Saturne-Uranus et c'est comme un dernier coup de poing sur la table. Ça va être intéressant de voir à cette période-là qu'est-ce qui se passe mondialement aussi, là. Ça va être une autre paire de manches parce que tout à l'heure, on parlait de Jupiter qui est revenu en bélier, mais Jupiter en bélier est beaucoup associé à des révolutions puis à des soulèvements populaires. Si on remonte dans le temps, un peu plus loin qu'en 2011, la dernière fois qu'il était en bélier avec le printemps arabe et tout ça, et on voit déjà que différents endroits dans le monde, là, il y a des soulèvements, l'insatisfaction. Alors, les gens vont être beaucoup là-dedans, là, mais moi, là. Tu sais, mais moi aussi, là, je veux faire valoir mes droits, puis je veux de l'avancement pour moi, pas juste pour les autres. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose un petit peu qui symbolise ça dans cette pleine lune-là. Alors, le 11, Mercure entre en Verseau. Alors, il y a comme un esprit d'indépendance qui souffle un peu et de détachement aussi. Alors, ça, c'est bien, justement, si on a eu une semaine avant ça avec une pleine lune peut-être un peu forte, ça va être intéressant de voir, justement, cet effet-là de Mercure en Verseau. Ça aussi, ça va être bien, puis ça va être super bon parce que Mercure va travailler avec Jupiter, justement, pour trouver des façons originales de mettre nos projets de l'avant ou de trouver des solutions justement à nos projets concrétisés. C'est être capable d'amener le côté conceptuel vraiment. Et plus Mercure va approcher vers Saturne aussi, il va avoir tout cet effet-là de concrétiser certaines choses puis à rendre concret certaines idées, pas juste les penser, mais les concrétiser aussi. Alors ça va être bon. Et bien, le 18, le soleil va entrer en poisson et on va terminer la saison du Verseau. Je trouve que 2023, c'est quand même un bon début d'année. On a eu un temps d'ajustement, peut-être dans la première quinzaine de janvier. Et là, tranquillement, justement, on se réveille, tu sais, on se réveille doucement, doucement. Puis là, les idées, puis ça commence dans notre tête à poissonner et tout ça. Alors, c'est bien. Et plus ça va avancer, plus que justement l'énergie revient, qu'on a envie de bouger et ça se prend bien. Maintenant, nous allons regarder la fête païenne d'Imbolc. Alors, Imbolc, dans la roue de l'année celtique, donne un avant-goût du printemps. C'est vraiment les premiers frémissements de la nature qui est encore endormie. On le sait, là, c'est l'hiver, on est encore, comme on disait, au cœur de l'hiver. Mais on sait que le soleil gagne en luminosité à chaque jour, à chaque semaine. On gagne de plus en plus de lumière. Alors, il y a tranquillement, il y a comme quelque chose qui se passe. Le mot original, c'est « imbolg » avec un « g » à la fin qui signifie « dans le ventre ». Alors, à imbolg, tout est fécond et en attente, à peine visible, voire pas du tout, comme un embryon dans ses premiers jours. Donc, c'est la promesse du renouveau, du potentiel caché, de l'éveil de la terre et de l'agitation de la force vitale qui se fait sentir. Alors, c'est tout l'espoir qui revient. À ce moment-là de l'année, nous sommes témoins de la croissance de la lumière, mais aussi de l'appétit du renouvellement de la vie. Alors, la vie qui veut revenir à la vie. Il y a comme quelque chose d'une énergie qui est forte, qui se remet tranquillement en marche. Souvent, de la mi-décembre jusqu'à la fin janvier, on se dépose, puis on est vraiment plus à l'intérieur de soi, puis c'est absolument nécessaire. Mais là, c'est le temps de lever les yeux un petit peu, de regarder par la fenêtre, regarder dehors, regarder un petit peu, là, justement, reconnecter avec cette lumière-là, puis se remettre en mouvement doucement, doucement. C'est le temps un peu de se tourner vers l'avenir. C'est un moment pour dépoussiérer l'ancien, pour nettoyer l'ancien, pour se créer un espace intérieur et extérieur pour du nouveau aussi, faire un peu de la place pour du nouveau. Puis ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être un début de ménage du printemps qui vise à désencombrer notre maison, mais pas juste notre maison, c'est notre cœur, notre esprit. C'est vraiment l'idée de faire de la place pour donner la chance à l'inspiration de monter en nous puis d'entamer un nouveau cycle. C'est un moment pour reconnecter avec notre créativité aussi, pour qu'elle prenne de plus en plus de place à l'intérieur de nous. C'est évidemment un bon moment de rituel qui peut être axé justement sur nos espoirs futurs ou juste printanier. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça, tu sais. Qu'est-ce que j'aimerais voir grandir justement? Qu'est-ce que je veux semer? Tranquillement, tranquillement, là, mes petits jardiniers, il y a déjà des gens qui vont commencer leur semence février, là, tout ça à l'intérieur de la maison. Alors, qu'est-ce que je veux semer, que ce soit symboliquement ou réellement pour votre jardin, peu importe. Mais il y a vraiment tout cet effet-là qui est là. Un bulk est traditionnellement une grande fête en l'honneur de Brigide, une déesse païenne qui était vraiment, vraiment aimée par l'Église chrétienne, tellement qu'ils l'ont nommée Sainte Brigide. Alors, on a une Sainte Brigide. C'est une déesse à la fois de guérison, de poésie et de la forge. Alors, une forgeronne, on les aime, nos racines celtiques, parce que justement, il y a beaucoup de femmes fortes ou guerrières dans les traditions celtes. Donc, c'est une déesse du feu, du soleil et du foyer aussi. Elle apporte la fertilité à la terre, à ses habitants. Elle est liée de près aux sages-femmes, aux nouveau-nés. C'est aussi la triple déesse, mais à Imbolc, elle est vraiment dans sa personnification de la jeune femme, de la maiden, qui est la jeune femme de feu fertile. Alors, pour la célébrer ou célébrer un bol que tout court, on allume des chandelles, on allume une chandelle et on a une pensée pour notre famille, nos amis, on souhaite de la lumière en nous et autour de nous, pour la terre au complet, elle en a besoin. Alors, c'est vraiment un moment intéressant pour ça. La magie de chandelle ou candle magic, c'est vraiment une approche qui est très simple et tellement accessible, mais tellement puissante si vous prenez vraiment le temps de vous déposer avec votre chandelle et de voyager avec votre esprit et de connecter avec des énergies, de projeter autour de vous des ondes un peu plus d'amour, de positivisme, tout ça pour vous-même et pour les autres aussi. Alors pourquoi pas? Bon, un bulk. Alors, pour la petite histoire qui n'en est pas vraiment une, parce qu'on va regarder plus les thèmes et les prévisions à venir pour 2023, et on va commencer avec les planètes plus lentes ou modernes, si on peut dire, et on va se rapprocher des planètes personnelles qui sont Mercure, Vénus, Mars. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire. C'est important de dire que 2023, c'est vraiment une année pivot important parce que de 2023 à 2025, on a plusieurs planètes, justement les planètes lentes et modernes qui vont changer de signe. Et ça n'arrive pas souvent que plusieurs planètes comme ça changent de signe en même temps, quasiment une petite danse chorégraphiée, les trois ensemble. Alors ça, c'est plutôt rare et ça risque d'être de plus en plus rare, en tout cas pour les prochaines décennies, parce que à cause de son elliptique, Pluton passe pas toujours le même nombre d'années dans un signe. Par exemple, il peut passer 10-12 ans dans le signe du scorpion, mais une trentaine d'années en taureau. Alors Pluton, pour tout le reste de nos vies, là, il va être vraiment beaucoup plus lent, il va passer beaucoup plus de temps dans chaque signe. En commençant justement par le Verseau dans lequel il s'apprête à passer 20 ans. Alors, ça va être vraiment intéressant. Donc, Pluton, la planète, la transformation de l'intensité qui intensifie tout ce qui touche, entre justement dans un signe qui est associé beaucoup au côté, on le voyait tout à l'heure, humaniste, les causes, les révolutions, tout ça. Alors, c'est sûr qu'on est comme au début d'une forme de révolution, hein, c'est certain, qui va s'échelonner dans le temps. Alors, c'est une nouvelle ère moderne, si on peut dire, qui va être beaucoup associée avec l'intelligence artificielle. On est dans le Verseau qui va être beaucoup associé avec justement des questions d'éthique et qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, on va le voir se développer au fur et à mesure. Mais c'est certain que cette année, on se met l'orteil dedans, c'est tout. Alors, Pluton, cette année, va passer seulement 11 semaines dans le signe du Verseau, du 23 mars au 11 juin. Alors, cette période-là, elle va être super importante pour juste remarquer, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tout ça. C'est quoi les grandes lignes, les thèmes? Parce que ça va certainement venir justement des choses qui vont prendre en expansion, qui vont devenir des thèmes très importants ou des lignes directrices. Pluton n'avance pas vite, alors il va retourner en Capricorne, tout ça, il va faire vraiment pendant presque 3 ans, comme on disait, du surplace dans ces signes-là. Alors, ça met beaucoup d'intensité si vous avez des placements au début des signes fixes, donc Verseau, Lion, Taureau, Scorpion, c'est sûr. Mais c'est comme une poussée évolutive, il ne faut pas voir ça négativement. Et ça ne va pas toucher seulement les signes fixes, mais tous les signes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une planète tellement lente qu'elle nous donne le temps de s'habituer. T'sais, c'est pas comme Uranus ou un éclipse qui est vraiment comme bang, là, ça arrive, tu ne le vois pas venir. T'sais, Pluton, c'est comme OK, ça s'installe lentement. Ça s'installe lentement, puis on commence à baigner dedans, puis on commence à saisir un peu son énergie, puis on a le temps de s'y faire. Alors, faut pas craindre ça, c'est super important. Mais c'est sûr que Pluton, c'est planète générationnelle de transformation intense qui rentre dans un signe justement très social, très humanitaire, très global, très revendicateur, très révolutionnaire. Alors, je vous laisse faire vos propres conclusions. Ensuite, on a Neptune. Neptune va rester dans les derniers degrés du poisson. Là, ça va être super intéressant parce que Saturne s'amène en poisson, justement. Alors, pour tous ceux qui ont Saturne en poisson, vous vous préparez à votre premier retour de Saturne ou votre deuxième, hein, qu'on a vu tantôt pour Dr. Dre. Mais ça va être vraiment intéressant de voir, ça sera pas pour tout de suite, justement, ça va être plus de fin 2024 quand on va arriver vers 2025, mais Saturne qui va s'approcher de Neptune. Je suis même pas certaine qu'ils vont avoir une conjonction dans le signe du poisson. Je pense qu'ils vont l'avoir dans le bélier en 2005, comme à 0 degré du bélier. Là, ça, comme je vous dis, là, 0 degré du bélier, c'est vraiment le premier degré du zodiaque au complet. Tu peux pas avoir plus nouveau départ que ça, mais on aura le temps d'en parler en masse. Donc, Neptune qui va rester en poisson. Et ça va faire du bien, justement, d'avoir Saturne qui entre parce que Neptune a été très, très fort en poisson. En plus, on a eu Jupiter en poisson dans les dernières années. Ça amplifiait beaucoup l'effet un peu de flottement. C'est super bon pour la créativité, la spiritualité, tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, ça peut t'amener dans des fuites des fois, puis des croyances, puis des choses qui sont vraiment comme déconnectées de la réalité, mais trop, là. Le fait que Saturne va rentrer dans le signe où est Neptune présentement, ça va aider. Saturne, on va en reparler tout à l'heure. Uranus, lui, va rester en taureau et va être quand même un facteur important. Ben, d'ailleurs, il est toujours un facteur important, mais là, il est vraiment rendu au cœur du taureau. Et lui aussi, comme on l'a vu, est la planète qui gouverne le Verseau. Ben, là, il est dans le signe du taureau. Il est vraiment dans un signe associé au corps humain, qui est associé à l'agriculture, tout ce qui est alimentation, mais aussi toutes les choses auxquelles on accorde de la valeur aussi, que ce soit une valeur monétaire ou peu importe. Le fait que Pluton rentre en Verseau et que Uranus est en taureau, là, ces deux-là, c'est sûr que ça amène une certaine intensité justement des thèmes associés. Ça va être super important de suivre les innovations dans ces domaines-là, suivre le cours des banques aussi, tout ce qui est crypto-monnaie, tu sais, même si ça vous intéresse pas, commencez à vous en intéresser, à regarder ça, même si vous avez pas d'intérêt pour ça, ou oh my god, tu sais, moi je suis un peu comme ça, là, ça fait longtemps que je repousse ça, mais là, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, puis je sais qu'il faut que je commence à m'intéresser à des choses comme ça, parce que sinon, on va devenir comme nos grands-parents avec des cartes de guichet qui savaient pas quoi faire avec ça, là. Fait que, tu sais, il y a comme un effet à commencer à jeter un œil à tout ça, mais tu sais, Uranus en taureau, c'est de la machine dans le corps, là, où la technologie qui est de plus en plus proche de nous, puis de plus en plus proche de notre corps, puis de notre alimentation, puis de toutes sortes d'affaires. Alors, c'est ça, tu sais, ça va être beaucoup ça aussi, Pluton en Verseau, toutes des questions d'éthique autour de ces questions-là. À quel point on amène l'intelligence artificielle, tout ça, en tout cas, bref. Ça, je vais vous en parler dans un atelier que je suis en train de faire, alors on pourra aller creuser ça plus en détail. Mais bref, on s'en va vers ça, tu sais, c'est dans l'air. Donc, on a regardé Pluton, Neptune, Uranus. C'est sûr que je pourrais rentrer dans tout plein de détails, mais on va garder ça rapido puisque le temps passe. Si on regarde Saturne, qui est tellement une planète importante, justement, qui est plus proche de nous et qui est vraiment notre horloge de notre vie, on peut toujours se fier sur Saturne. Alors, Saturne qui quitte enfin le Verseau, qui a vraiment mis les limites sur le collectif, qui nous a vraiment enfermés chez nous quelque part dans les deux dernières années, mais tout ça découlait justement de la rencontre de Pluton et Saturne en Capricorne en 2020, la COVID, ta-ta-ta, on la connaît l'histoire. Alors, on s'entend que autant Capricorne et Verseau, comme on disait traditionnellement, sont gouvernés par Saturne. Alors, ça fait une bonne période de temps que Saturne est au-dessus de notre tête, là, puis que c'est comme sévère, c'est difficile. Alors, Saturne qui rentre en poisson, c'est comme « oh ». Alors, il va être là du 7 mars au 14 février 2026, pratiquement 3 ans, là, in and out. C'est sûr qu'il va avoir le temps d'aller en bélier, mais il va retourner un petit peu en poisson. Donc, c'est sûr que ça va faire du bien. Tous les signes fixes, dont le lion, vous allez être vraiment content de ce relâchement-là, que Saturne quitte cette section-là du ciel. Mais en fait, tous les signes fixes, puis en plus, les signes fixes, on a eu les éclipses, où on a les éclipses, il nous en reste encore quelques-unes à avoir. Mais disons, les signes fixes, justement, il y avait beaucoup de poids sur les épaules. On était à l'école de Saturne. Alors, c'est strict, puis c'est des tests, puis c'est des ci, puis c'est des ça. Alors ça, cette énergie-là va rentrer chez les signes mutants. Donc, poisson, vierge, gémeaux, sagittaire. Vous êtes chanceux, c'est jamais facile, un retour de Saturne, mais reste que là, il y a une circonstance atténuante, si on peut dire, du fait que Jupiter, à partir de mai, on va en parler après, Jupiter va être en taureau. Alors, pour la première fois depuis quelques années, là, Jupiter et Saturne vont travailler ensemble par sextile. Alors, c'est comme si Jupiter va amener un peu de soutien à Saturne, justement, qui est dans le monde du poisson, où est-ce que des structures, il n'y en a pas trop, là. C'est sûr que quand Saturne rentre dans un signe, c'est pas toujours évident. Il passe à peu près 2,5 ans dans un signe. Et souvent, la première année va être plus difficile parce que, justement, Saturne va vous confronter à qu'est-ce qui fonctionne pas dans votre vie ou qu'est-ce que vous pensez qui fonctionnait, mais que dans le fond, vous vous entêtez à rentrer dans quelque chose qui est plus pour vous puis qui empêche votre croissance. Fait que quelque part, il veut votre bien, Saturne. Tu sais, c'est votre ami. Mais c'est le prof qui nous enseigne à la dure, comme on dit tout le temps. Là, c'est sûr que Saturne, il vient tester la solidité des poissons, principalement. Mais comme je vous disais, il va y avoir quand même d'autres circonstances atténuantes, dépendamment du moment de l'année, là, mais il faut voir la charte. Mais c'est sûr que les poissons, c'est votre tour un peu de vous faire tester ou tous ceux qui ont leur retour de Saturne. Donc, la première année, comme je disais, c'est beaucoup justement aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis dans la deuxième année, bien là, on va être plus dans la reconstruction puis on va être plus dans justement je me relève les manches et j'y vais. Puis, tu sais, au final, on en sort toujours, toujours grandi. Moi, personnellement, c'est pas la première fois que je le dis, là, je suis vraiment une fan de Saturne et j'ai beaucoup, beaucoup de placements en scorpion. Je me rappelle quand Saturne était en scorpion en 2012-2013, ça a été des années, beaucoup de tests pour moi, mais c'est là que j'ai vraiment, vraiment grandi beaucoup. Et à l'époque, j'étais encore coiffeuse. Je travaillais dans un salon de coiffure dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et c'était le temps pour moi de partir. Et ça a été vraiment difficile de briser cette relation-là que j'avais avec le propriétaire, puis l'équipe et tout ça, parce qu'on était vraiment soudés. Mais pour plein de raisons, c'était le temps pour moi de partir. Et c'est ça de dire, je pars pas de zéro parce que j'avais ma clientèle, mais avoir un salon de coiffure, là, je savais pas, moi, c'était quoi ça, là. Tu sais, dire j'ouvre mon salon, je m'occupe de tout, je suis responsable de tout, tu sais, il n'y a pas plus Saturne que ça. Mais c'est ça, pour moi, ce moment-là de ma vie, c'était vraiment la chose à faire, puis c'était vraiment une étape super décisive et de libération, tu sais, si je peux dire, j'étais vraiment rendue là. Oui, il a fallu que je mette de l'effort, mais j'ai bâti quelque chose pour moi. C'est un moment comme ça pour bâtir quelque chose pour vous, tu sais, donc ça va être très important. Ça va dépendre des thèmes de votre vie. Saturne va venir vous enseigner, vous aider à vous rebâtir, tout ça, mais quand on dit rebâtir, c'est que vous n'allez pas avoir le choix de regarder qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui est trop fixe ou figé ou tout ça et qui vous empêche d'évoluer, là, c'est vraiment ça. Par contre, Saturne, pour les signes d'eau, il va faire des aspects positifs autant au cancer qu'au scorpion. Et ça, ça va faire du bien. Ça va amener une capacité à mieux s'organiser, vraiment à rendre certaines choses plus concrètes aussi dans notre vie. Alors, ça va être super bon. Encore plus pour les cancers, parce que les cancers, vous allez avoir l'appui de Jupiter aussi en taureau. Alors, ça, c'est super bon. Donc, pour certaines personnes, justement, Jupiter et Saturne vont vraiment amener croissance et stabilité. Alors, si on regarde Jupiter, c'est le dernier passage de Jupiter en Bélier. Donc, il va être là jusqu'au 16 mai 2023 avant de passer en Taureau. C'est le courage vraiment de suivre qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, puis de suivre son instinct, puis de suivre qu'est-ce qu'on pense qui est bon pour nous, puis de se lancer et tout ça. Alors ça va être excellent. Ça va favoriser aussi, par aspect positif, les Sagittaires et le Lion. Surtout Sagittaire parce que c'est la planète qui le gouverne. Alors, ça va être super bon pour les Sagittaires, ce moment-là. Évidemment, faut avoir des buts. Si t'as pas de but, ben tu vas passer à côté. Mais tu sais, si t'es vraiment dans une phase de ta vie où est-ce que t'as envie d'amener des changements, de connecter avec certains aspects de toi-même, de mettre de l'avant même tout ça, ben ça va être une bonne période. Ensuite, Jupiter va rentrer en Taureau. Éventuellement, à l'été, il va connecter avec Uranus. Alors, ça va être intéressant ça aussi de voir là, au niveau économique, on va avoir encore des soubresauts, là, c'est certain. Habituellement, on dirait que Jupiter qui rentre en Taureau, c'est super positif. Là. C'est comme « ouh, l'argent, l'argent », mais dans les circonstances, on n'a pas fini encore avec les éclipses Taureau-Scorpion. Uranus est en Taureau aussi, alors... Moi, je me garde une petite réserve par rapport à ça. Mais c'est sûr que, mes chers taureaux, Jupiter rentre chez vous pour un an à partir du 16 mai jusqu'au 26 mai 2024. Alors, c'est votre moment. Si vous avez Jupiter en taureau, c'est votre retour de Jupiter. Ça arrive juste une fois aux 12 ans. Alors, c'est super bon. Ça aussi, ça va bénéficier des signes de terre, donc Vierge et Capricorne. Les Vierges, par contre, c'est sûr qu'ils vont avoir Saturne face à eux. Alors, peut-être un petit peu plus de pain sur la planche. Ça va être bon pour les signes de terre. Comme on disait, ça va être super bon pour le cancer. Et ça va aider aussi le poisson, justement, qui va avoir, lui, à dealer avec Saturne. On a aussi Mars qui passe, on le disait, qui passe direct en début d'année. Alors, plus on avance, plus qu'il y a un momentum, plus on a envie d'être dans l'action, puis de passer à l'action et tout ça. Alors, il va quitter le Gémeaux. Alors, quel soulagement pour les Gémeaux, entre autres, et les ascendants Gémeaux, tout ça. Ça n'a pas été facile avec le rétrograde de Mars. Des fois, on avait l'impression de faire du surplace, de ne pas être capable d'avancer, d'avoir trop de tâches, pas assez de temps, d'avoir notre attention divisée, etc. Beaucoup de frustration, de communication, pas évident. Alors, ça aussi, tu sais, ça va faire du bien que Mars avance. Ensuite, on a Vénus. Vénus va faire un rétrograde cet été. Et moi, je vous dirais que cette année, là, la période la plus comme un peu explosive, ça va être vraiment l'été. Parce que Vénus, ça va faire beaucoup d'aspects difficiles à Uranus pendant son rétrograde et ça va amener beaucoup d'intensité. Alors, on va avoir beaucoup de volatilité dans l'air. Ça va toucher beaucoup les lions principalement, mais aussi les taureaux parce que, comme je disais, Vénus et Uranus vont se faire un carré. C'est sûr que Vénus, la planète de l'amour, de l'attraction, des valeurs, tout ça, qui rentre dans un signe comme le lion, qui est vraiment « rise and shine », puis, tu sais, il y a comme quelque chose de « je me refais un look, I feel kind of sexy ». Du fait qu'Uranus est là, il y a comme un peu de rébellion, tu sais, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser, mais oups, c'est quoi les conséquences sur mon couple ou j'ai envie de brasser les choses à mon travail, oups, c'est quoi les conséquences à mon travail, tout ça. Alors, ça va être un été chaud à plein de niveaux. Je pense qu'aussi au niveau de la mode, tout ça, je pense que ça va être assez éclatant cet été. J'ai hâte de voir, là, mais en tout cas, ça devrait être intéressant de ce côté-là. Mais quand même, ça va ajouter un peu d'intensité dans notre été, là, vraiment de juillet à septembre, là, c'est sûr, sûr, sûr. Déjà, Vénus rentre en Lion à partir du mois de mai, alors sortez vos paillettes, les amis, et votre rouge à lèvres, là, ça va être parfait. Et finalement, ben on a Mercure cette année qui va faire des rétrogrades en signe de terre uniquement. Mais comme je vous disais, puisque Jupiter va être dans un signe de terre aussi, j'ai vraiment l'impression que ça va nous amener beaucoup de réflexions sur nos ressources, comment qu'on gère nos ressources, les questions de finances aussi. Encore là, je pense que 2023, ça va être vraiment, vraiment une année importante en lien avec ça. Alors, Mercure qui va faire des rétrogrades dans des signes qui sont associés vraiment au côté pratique de la vie et vraiment de questionner, de revenir les deux pieds sur terre. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Donc, ça fait pas mal le tour, les amis. On peut dire que 2023, après qu'est-ce qu'on a connu, là, ça va être comme une année de répit et qui va nous permettre justement un peu un passage d'une étape à une autre, d'une ère à une autre. Et prenons-le parce qu'on le mérite. Et comme je disais, toutes les planètes vont être directes du 22 janvier au 21 avril. Alors, on en profite, les amis. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute. Merci de vos commentaires, de vos partages. Ça fait toujours chaud au cœur. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.